Fred Film Radio, Festival du Cannes, France.
Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. Aujourd'hui, je suis sur la plage de la Quinzaine pour parler d'un film qui est passé à la Quinzaine. C'est Perdri d'Erwan Leduc, un premier long métrage. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Le film se passe dans un village des Vosges où arrive une fille, Juliette, qui se fait voler sa voiture, qui est une fille itinérante, toujours en fuite, qui se fait voler sa voiture par un révolutionnaire nudiste et qui va porter plainte auprès du capitaine Perdri. Et là, l'arrivée dans le village de cette fille va déclencher tout un tas de remises en question dans ce village si haut en couleur. Donc c'est un film très léger, où on rit beaucoup, il y a tellement de choses qui se passent et en même temps, il tourne autour de deux thèmes très fondamentaux et très nus et simples qui sont l'amour et l'existence, qu'est-ce qu'on fait dans l'existence. Deux mots d'ailleurs qui sont dans le titre de l'émission de Fanny Ardant, l'amour existe, voilà, amour et existence. Comment vous êtes arrivé à combiner cette fourmillance avec cette simplicité finalement?
C'était le pari de départ du projet, quoi, de pouvoir raconter. Enfin, déjà, le point de départ, c'est quand même de raconter la fulgurance du sentiment amoureux. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et comment une rencontre décisive chamboule tout ce qu'il y a autour. C'est non seulement les deux protagonistes, mais aussi tout l'univers qu'il y a derrière, que ce soit l'univers familial ou professionnel. Donc ça c'est le point de départ et je voulais vraiment aussi que le pitch soit d'une simplicité la plus pure possible. C'est vraiment un garçon rencontre une fille, quelque chose se passe. Bon, alors il se trouve que c'est l'histoire, c'est après que cette fille se fait voler sa voiture, et elle se fait voler sa voiture par une nudiste révolutionnaire, donc par une fille toute nue. Donc ça commence à poser quelques questions, et au fur et à mesure, on installe l'univers petit à petit, comme ça, avec différents groupes qui interviennent pour déséquilibrer tout ça. Donc au départ, il y a vraiment le sentiment et l'émotion qui pour moi était essentielle, que je voulais mettre au premier plan et que j'ai beaucoup travaillé au scénario. Et dans l'idée que chaque événement ou chaque chose ou même chaque blague qui peut y avoir dans le film raconte toujours quelque chose des personnages et de cette émotion. Et après, c'est inscrit là-dedans des lignes ou des questionnements plus tragiques, oui, qui sont portés par chacun des personnages parce que c'est ce qui fait leur complexité. Et donc moi c'est ça qui m'intéressait. Après je pense le travail sur l'humour, il est aussi lié à ça, il est aussi lié au tragique. C'est pour moi c'est la même chose, et ça va ensemble. Et donc j'ai des personnages qui s'interrogent sur leur vie, donc qui se posent des questions parfois abyssales et qui répondent parfois de manière drôle, parfois non, mais qui voilà, tout se mélange quoi. C'est un film sur la rencontre. Donc pour moi, c'était cohérent que les genres et se rencontrent et que les contrastes soient exposés. Et que donc on puisse mêler le sublime avec le trivial, qu'on puisse mêler la comédie avec le tragique et qu'on puisse... C'était l'enjeu quoi, de réussir à faire se rencontrer des contraires comme ça, des contraires supposés, et de les faire se rencontrer et parfois de manière très rapprochée. Quoi. C'est ce qui m'intéresse, c'est que dans la même scène, on puisse passer de l'un à l'autre. Et comment on arrive à faire ça? Donc ça, c'est un travail d'écriture pour pas que ça soit ni gratuit ni trop volontaire et que ça raconte toujours quelque chose. Et après, c'est un gros travail d'interprétation des comédiens justement pour pas que ça devienne un exercice de style et qu'au contraire, on soit toujours dans une grande sincérité par rapport au film et au personnage. C'était une longue réponse.
Les personnages du film. Juliette, le capitaine, la mère, Thérèse, jouée par Fanny Ardant, ces personnages qui ont des entraves. Alors, l'une, ça va être son envie de liberté, d'indépendance, l'autre, son sens des responsabilités, le personnage de Fanny Ardant, une certaine idée du grand amour. Et puis, ils vont arriver à s'en libérer. Mais vous êtes parti, effectivement, de personnages entravés.
Ouais, complètement. Ouais, qui sont en bas, je parlais de leur complexité tout à l'heure. C'est-à-dire, ils sont entravés, mais ils sont aussi dans un certain équilibre. Après, c'est un équilibre qui est pas forcément toujours très sain ou très tourné vers l'avenir. Mais en tout cas, il existe et c'était important pour moi qu'ils portent chacun effectivement des contraintes. Mais que ça ne soit pas non plus si simple que ça. Par exemple, la famille de la famille Perdri, avec toute cette somme d'individualité, mais qui en même temps chacun a un univers très fort, et en même temps ils vivent ensemble et ils vivent pas mal. Pour moi, c'est pas une famille dysfonctionnelle. C'est juste ils ont un fonctionnement. Après, peut-être si on les retrouve dans 10 ans, ça sera un peu plus compliqué parce que personne n'aura vraiment fait sa vie et que ils seront, ça aura peut-être un peu pourri. Mais ils ont quand même un mode de fonctionnement. Donc et chacun a trouvé son petit équilibre avec les problèmes qu'il y a, des problèmes souvent effectivement pas forcément réglés. Et là, l'arrivée de Juliette et le chamboulement que ça suppose, accélère ce phénomène de face à face avec chacun, avec soi-même, quoi, avec les choses à régler, que ce soit Thérèse Perdrix, donc jouée par Fanny Ardant, face au fantôme de son mari qu'elle aime depuis 20 ans alors qu'il est mort depuis 20 ans, et donc elle entretient le souvenir et qui est à la fois très romantique et en même temps très mortifère, très morbide. Donc elle a face à ça le personnage de Juju, du frère joué par Nicolas Maury, avec sa fille, ils finissent par se dire des choses. Et encore une fois, à la fin du film, il y a des choses qui se décantent, mais je ne sais pas si elles se règlent. Et ça ne m'intéressait pas non plus de trop boucler les choses. J'avais besoin que les choses soient un peu ouvertes et qu'on ne soit pas non plus dans quelque chose de trop systématique. Quoi, et voilà.
Vous parlez de famille. Moi, je trouve intéressant, effectivement, que vous ayez choisi pour faire se développer et naître cette histoire d'amour, cette rencontre, le cas d'une famille atypique, mais tout de même d'une famille.
Ouais. Ah oui, c'est une vraie famille. C'était important aussi qu'on les sente exister ensemble très vite. En fait, je voulais que si je puis dire, la familiarité de cette famille se ressente physiquement quand on les rencontre, quoi, et qu'on n'ait pas besoin d'expliquer ou de choses comme ça. Et ça, c'est un truc qui tient vraiment à installer les comédiens et qui soient ensemble et qui c'est sur des détails, quoi. Moi, je crois plus à une famille de cinéma quand je les vois manger et qu'il y en a un qui dit passe-moi le sel à l'autre, quoi. Des trucs comme ça de quotidien, ou alors cette scène où ils regardent un match de foot ensemble qui paraît rien, mais en même temps ils sont affalés les uns sur les autres sur le canapé et en une image ils existent. Et voilà, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est une famille qui, je pense, vit plutôt bien ensemble, mais parfois au détriment de certains, et notamment du personnage de Perdrix qui lui se sent de plus en plus oublié là-dedans, quoi, ou mal aimé ou pas aimé du tout, ou par lui-même, quoi. Il s'occupe pas de lui, quoi. Et donc voilà, c'est comment il sort de ça, et c'est sa mère lui pose au début, enfin dans cette scène de radio, lui demande est-ce que la vie que nous vivons est-ce que la vie que vous vivez est véritablement la vôtre. C'est une question qui est rhétorique mais qui est réelle aussi, quoi. Et lui, il a clairement l'impression de ne pas vivre sa vie, ouais. Donc comment il va faire pour vivre sa vie? Alors est-ce que la famille est une entrave à ça ou pas? Pour moi, c'est pas aussi simple. Et d'ailleurs, sans dévoiler la fin du film, il n'y a pas une réponse claire et nette à ça, quoi. C'est un peu plus compliqué.
Mais c'est vrai justement que c'est à la fois un procédé comique du film, un dispositif comique, mais à la fois ce qui permet au personnage de faire ce chemin, c'est que ce film joue des clichés finalement. C'est une famille mais pas forcément typique. Et puis on a par exemple, ça représente bien ça, un groupe de gens qui reconstituent l'histoire. Et il y en a tantôt ils font les Français, deux groupes, ils font les nazis contre les Français. Et puis des fois ils échangent. Et en fait dans le fil du film, il y a tout un tas de systèmes d'inversion qui sont aussi absurdes et qui sont aussi drôles, mais qui démantèlent certaines idées fixes.
Oui, tout à fait. C'était comme j'ai des groupes de personnages qui sont quand même très identifiables au début. Ils ont chacun un univers très fort. Donc il y a effectivement les gendarmes, les mecs qui font des reconstitutions historiques, les nudistes. Donc il y a clairement un jeu avec l'uniforme, hein, quand même déjà. Et donc l'uniforme, l'habillé, le déshabillé. Enfin, pour moi, la nudité est aussi une forme d'uniforme. Mmh. Et donc on joue avec ça. Et c'est une manière, en installant ces univers très forts, c'est donc oui pour les détourner et pour jouer avec ces codes. Et les faire fonctionner les uns face aux autres et faire que chaque histoire résonne pour la trajectoire des personnages principaux. Donc il y a tout un jeu autour de ça, autour des codes et puis autour des codes du genre. Et puis après c'est pareil, on a des gendarmes et puis on se rend vite compte que c'est pas vraiment des gendarmes tels qu'on les entend, qu'on les imagine. C'est quelque chose d'assez libre. Moi, ce qui m'intéresse aussi en posant des univers très forts, c'est du coup ça, on peut jouer avec quelle est la liberté que s'octroient ces gens, ces individus dans leur uniforme, et quand je dis ça, c'est vraiment pas du tout sur un, sur une veine de polar telle qu'on peut le faire d'habitude, c'est-à-dire qu'avec des flics qui vont prendre des libertés avec avec la loi par exemple. Là c'est l'inverse, c'est plutôt vraiment sur deux domaines de l'intime, où comment ces mecs qui vivent tous les jours, qui se voient tous les jours au bureau en fait, parce que c'est un bureau aussi la gendarmerie, donc comment cette vie de bureau fait qu'à un moment bah ils parlent d'eux ou pas, et que et cette scène de réunion de service qui devient une scène de psychanalyse collective où chacun essayer de définir le chef en un mot, donc ça, voilà, bah c'est ça, moi c'est ce qui m'intéresse. En plus, je pense que c'est pas très éloigné de la réalité. Ça s'inspire un peu de moi, de mon expérience de vie de bureau que j'ai pu avoir, et où parfois il suffit que ça se décale un tout petit peu, et puis les gens se mettent à parler d'autres choses, et puis ça, c'est, voilà, ça devient, ça, on se dévoile, quoi. Et donc là, il y a clairement un truc bah, du dévoilement aussi avec les, en général, quoi, avec les nudistes, avec les. Ils fonctionnent en opposition, les nudistes et les reconstituteurs. D'ailleurs, c'est ce que dit le personnage du reconstituteur qui est joué par Admen Khalif, qui lui dit mais le faux, c'est l'au-delà. Moi, plus je suis faux, plus je suis vrai. Et puis de l'autre côté, on a ceux qui se déshabillent complètement et qui disent maintenant, il faut se déshabiller, il faut s'enlever tout ce qui est superflu, se défaire de tous les oripeaux. Et puis là, on peut commencer à parler. Voilà.
Mais cette scène, elle est effectivement, on se rend compte que tout le monde dans ce village est complètement poétique. Et il y a aussi des scènes, des moments qui tranchent avec la narration, l'ensemble de la narration, qui sont des moments plus oniriques, accompagnés de musique, notamment un moment de reconnaissance amoureuse, puisque c'est le l'axe central, sans dire beaucoup plus. Voilà, vous avez vraiment beaucoup joué de la musique. Pourquoi c'était important pour vous de faire ça, et peut-être en quoi vos producteurs vous ont soutenu dans ces projets pour avoir tous ces acteurs, toutes ces belles musiques baroques, des musiques des années 80. Comment vous avez combiné ces différents univers auditif et autres.
C'est-à-dire que moi, effectivement, il y avait depuis le départ, moi, je suis assez passionné par les questions de mise en scène, donc ça, la musique, bien sûr, mais aussi tout le reste. Enfin, comment on raconte aussi une histoire sans forcément de dialogue, et comment juste par la mise en scène et par l'image et par le cadre, on raconte une histoire où on fait passer un sentiment. Et du coup, la musique vient s'inscrire là-dedans assez naturellement. Et tout l'enjeu des choix musicaux, c'est effectivement qu'ils soient bien sûr pertinents pour chaque séquence, et qu'il y ait une cohérence générale. Alors, parce que là, il y a des choses assez variées. Effectivement, il y a une chanson de Gérard Manset qui nous rentre dans le film. Après, on a une chanson de Niagara dans cette scène dont vous parliez. Mais aussi, il y a du classique, il y a du Vivaldi, il y a du Grieg. Et tout ça vient accompagner une scène. Alors ça fait des choses très variées, effectivement très différentes, parfois très lyriques, et ça ça faisait aussi partie d'une envie de cinéma qui fait partie du projet, de partir à l'aventure là-dedans et de pas refuser ça, enfin voilà, de proposer cet enchantement là et d'aller aussi vers du lyrisme, vers des choses qui avec de l'ampleur, avec de l'espace, donc avec une musique qui est opératique comme ça, qui prend beaucoup d'espace. Et toutes ces musiques là, elles trouvent leur cohérence aussi par la musique originale qui a été composée par Julie Rouet, qui est une musique où il y a un thème comme ça qui accompagne le film sous différentes versions, avec des ponctuations, avec parfois des moments où ça amène l'émotion voulue. Et ça, bah voilà, c'est le travail qu'elle a fait qui est vraiment parfait pour le film, quoi. On a pas mal cherché, et puis on a fini par trouver ça, et voilà.
Et vos producteurs ne vous ont jamais mis de barrières ou limitées ?
Si, bien sûr, il y a toujours une question. Maintenant, c'est un peu dommage parce que, enfin, c'est pas eux, hein. Eux, ils ont pas mis de barrières, ils m'ont plutôt soutenu. Après, on avait des contraintes économiques qui étaient importantes, donc il fallait naviguer avec ça, ouais. Maintenant, on a, par exemple, Gérard Manset, c'est un artiste particulier. Il se trouve que sur le morceau là, c'est lui qui avait les droits, donc on a contacté Gérard Manset et il a adhéré au projet. Il m'a même appelé le premier jour du tournage pour me souhaiter un bon tournage, ce qui était vraiment d'une grande élégance de sa part. Donc c'est pareil, c'est tout d'un coup les gens comme ça qui viennent sur le projet parce que ça leur plaît et qui savent pourquoi ils le font. Voilà, et pareil pour Niagara où on leur a montré la séquence et ils ont accepté. Ça leur a beaucoup plu, ils ont accepté d'être dans le film à des conditions peut-être différentes Voilà, ça j'en sais rien, ça c'est le travail des producteurs, mais qui ont été vigilants forcément sur l'aspect financier, mais qui m'ont toujours soutenu artistiquement, et les discussions ont toujours été très riches avec eux sur ces choses-là, notamment.
Bah justement, vous employez le mot riche, et c'est ce que je voulais dire. C'était une des belles découvertes canoises. Merci beaucoup, Erwan Leduc, de nous avoir parlé de Perdrix.
Merci à vous. Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.